France Culture.
Les nuits de France Culture.
Entrée en résistance, dès septembre 1940, à tout juste 16 ans, Lucien Legros fut l'un des 5 lycéens martyrs du lycée Buffon, fusillé le 8 février 1943 par les Allemands. Comme le firent ses 4 camarades, Jean Artus, Jacques Baudry, Pierre Benoît et Pierre Grelot, Lucien Legros rédigea une lettre destinée à sa famille moins de 2 heures avant son exécution. Cette lettre, ne se sentant pas capable de la lire, Vladimir Jankélévitch l'évoquait néanmoins dans le 5e des 9 épisodes de l'émission « Le livre de chevet » à laquelle il participait en 1967 en présentant aux auditeurs le livre de Léonide Andreïev « Les 7 pendus ». Il soulignait avec émotion l'analogie entre certaines pages des 7 pendus et la lettre qu'avait laissée Lucien Legros à ses parents avant de mourir. Dans l'émission que nous allons entendre, Vladimir Jankélévitch rapprochait la démarche de Léonide Andreïev, cherchant à saisir dans les 7 pendus l'homme vivant confronté à l'incompréhensible du néant, à l'expérience à laquelle s'était livré Bergson dans l'évolution créatrice. Mais écoutons cette émission dans laquelle le philosophe lisait un extrait du chapitre qu'il considérait comme le sommet des 7 pendus. Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch, présente les 7 pendus de Léonide Andreïev, 5e des 9 épisodes, diffusé le 2 juin 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des 7 pendus de Léonide Andreïev.
Je rappelle que Vladimir Jankélévitch nous lit actuellement le récit des 7 pendus de Léonide Andreïev. Je rappelle également que Vladimir Jankélévitch a publié tout récemment un livre sur la mort. Avant de reprendre la lecture du récit de Léonide Andreïev, je crois que vous souhaitez nous lire une admirable lettre d'un fusillé.
Eh bien, je crois que je n'aurai pas la force de la lire, cette lettre. Je n'arriverai pas jusqu'au bout. Mais ce que je voulais dire, c'est que par moments, je me demande, quelle que soit la sublimité de ce récit, pourquoi je le lis, puisqu'il y a en effet ces témoignages tout récents que sont ces lettres de fusillés, qui sont non moins sublimes et qui se rapportent à des événements très douloureux et souvent héroïques, qui sont proches de nous, de ma génération, en tout cas, notamment cette lettre de Lucien Legros, dans laquelle ce jeune homme de 16 ans manifeste une maturité extraordinaire et écrit des lignes véritablement sublimes. Quand on lit cette lettre, on se demande pourquoi nous lisons Sénèque et Plutarque et les moralistes antiques. Il a une maturité, une profondeur qui sont vraiment étonnantes. En tout cas, la situation de Lucien Legros est un peu la même. Cette lettre est la lettre d'un jeune homme qui va mourir dans 1h30. Voir la lettre de quelqu'un qui va mourir dans 1h30, c'est quelque chose qui évidemment devrait dégager pour nous des secrets inconnus. Et cette lettre est pour moi mystérieuse, précieuse, ce message de l'au-delà, et ce message vrai de quelqu'un qui va mourir. Cette lettre présente quelques analogies curieuses, même avec le chapitre consacré à Serge Golovin. C'est un jeune homme plein de vitalité, comme les Serges, et qui pense même à manger, qui a beaucoup d'appétit. Il a honte lui-même d'avoir de l'appétit, il a très bien mangé les vivres qu'on lui avait envoyés dans un colis. Il n'arrive pas à réaliser, lui non plus, cette mort. Il y a quelque chose d'incompréhensible, une contradiction choquante, un déchirement qui ne peut pas être recousu entre la vie et la mort, entre l'être et le néant. J'en finis avec ce chapitre consacré à Serge Golovin, Dans ce chapitre, comme vous avez pu entendre, Andreïev confronte l'homme vivant avec l'incompréhensible du néant, du non-être. C'est, si vous voulez, dans l'ordre tragique, un peu l'expérience à laquelle Bergson se livre dans l'évolution créatrice, quand il demande ce qu'est le néant et si une pensée du néant n'est pas un néant de pensée. Celui qui essaye de réaliser le néant, en réalité, se sent lui-même plein de pensées, plein d'une vie grouillante, et les objets, les choses autour de lui, les sensations, répondent toujours présents, puisque l'absence elle-même n'est rien. Et Serge Golovin fait, dans l'ordre tragique, une expérience de ce genre, car pour un homme vivant, eh bien, l'être dit « je suis », les prairies disent « prairie », le ruisseau dit « ruisseau », le ciel dit « ciel », et aucune chose ne parle de son absence. À plus forte raison, la vie ne parle pas de sa propre privation. La vie ne parle pas de son absence. La vie ne parle pas de la mort. La vie ne parle que de la vie. La vie ne chante que les merveilles de la vie. La vie ne raconte que la gloire de la vie, comme le ciel ne raconte que la gloire de l'être et la gloire de la création. Les choses ne parlent que de la lumière. Alors ce qui est monstrueux, c'est donc d'avoir à réaliser quelque chose qui est l'absence de lumière, l'absence d'être, le non-être, lequel est inconcevable. Il y a des pages saisissantes à cet égard chez Victor Hugo. Je ne sais pas si Leonid Andreïev lui-même avait lu « Le dernier jour d'un condamné ». Je crois avoir dit que Dostoïevski le connaissait bien, l'avait lu. Et je crois me rappeler aussi que dans « Ce dernier jour d'un condamné », le condamné se livre à la même expérience. Est-il possible que je vais mourir, que c'est moi qui vais mourir, moi que voici, qui saisis la table que voici, le bras de ce fauteuil, qui me touche moi-même? Comment puis-je associer ces deux idées, mes sensations, ma présence, ma réalité et le néant de toute chose? Cette expérience est confondante, elle est stupéfiante, elle nous paralyse et nous rend muets. Je crois que la vitalité de Golovin, qui est étudiée par Andreïev dans ses pages splendides, consiste en cela même, dans cette expérience indicible qui n'est pas faite pour l'homme, qui n'est pas à sa pointure et qui est l'expérience de la mort. Nous allons maintenant lire, si vous permettez, le sommet, à mon avis, du récit des sept pendus, qui est le chapitre consacré à Werner, le personnage le plus énigmatique de ces sept pendus. Werner est un inconnu, on ne sait même pas son vrai nom. Il y a en lui quelque chose de mystérieux, et je crois qu'il est le porte-parole de Leonid Andreïev. C'est en lui, peut-être, qu'on retrouve le plus le message de cet écrivain passionné et si profond, si pathétique. Je vais vous lire intégralement ces pages admirables. Elles s'appellent « Les murailles s'écroulent ». L'inconnu, surnommé Werner, était un homme fatigué de la lutte. Il avait passionnément aimé la vie, le théâtre, la société, l'art, la littérature. Doué d'une admirable mémoire, il parlait parfaitement plusieurs langues. Il aimait à s'habiller, avait d'excellentes manières. De tout le groupe des terroristes, il était le seul qui sut paraître dans le monde sans courir le risque d'être reconnu. Depuis longtemps déjà, et sans que ses camarades s'en fussent aperçus, il avait un profond mépris pour les hommes. Plutôt mathématicien que poète, il ignorait, jusqu'alors, ce que sont l'extase et l'inspiration. Je dois dire que tout à l'heure, je l'avais considéré comme le porte-parole de Leonid Andreïev, mais je crois que j'ai tort. Je me reprends. Tout cela ne caractérise en rien Leonid Andreïev. C'est le personnage le plus énigmatique, en effet, des sept pendus, mais je crois que Leonid est un peu dans chacun d'eux. Il n'est entièrement dans aucun, et certainement il n'est pas tout entier dans Werner, car ses qualités ne caractérisent pas du tout Leonid Andreïev. Par moments, Werner se considérait comme un fou qui cherche la quadrature du cercle dans des mares de sang humain. L'ennemi contre lequel il luttait tous les jours ne pouvait lui inspirer de respect. Ce n'était qu'un réseau compact de bêtises, de trahisons, de mensonges, de viles tromperies. La dernière chose qui avait détruit en lui, pour toujours, lui semblait-il, le désir de vivre, c'était l'exécution sur l'ordre de son parti d'un agent provocateur. Il l'avait tué tranquillement. Mais à la vue de ce visage humain, inanimé, calme, mais faux encore, pitoyable, malgré tout, il cessa brusquement de s'estimer, lui et son œuvre. Il se considéra comme l'être le plus indifférent, le moins intéressant qui fût. Un homme de volonté qu'il était, il ne quitta pas son parti. Apparemment, il resta le même. Mais il y eut désormais dans ses yeux quelque chose de froid et de terrifiant. Il n'en dit rien à personne. Il possédait encore une qualité très rare. Il ignorait la peur. Il avait pitié de ses camarades lorsqu'ils éprouvaient ce sentiment, de Vassili Kachirine surtout. Mais c'était une pitié froide, une pitié de commande. Werner comprenait que le supplice n'était pas simplement la mort, mais encore quelque chose de plus. En tout cas, il résolut de l'accueillir avec calme, de vivre jusqu'à la fin comme si rien ne s'était passé, il ne se passerait. C'était de cette manière seulement qu'il pouvait exprimer le plus profond mépris pour le supplice et conserver sa liberté d'esprit.
C'était le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, Les Sept Pendus, et vous a interprété au piano La mort rôde de Gabriel Dupont et un extrait de Goyescas de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Venez d'entendre le cinquième des 9 épisodes du livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 2 juin 1967 sur France Culture. À suivre.